Radio Okapi. Grande interview.
Mesdames et messieurs fidèles auditeurs de Radio Okapi, bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire. Grande interview d'aujourd'hui reçoit le secrétaire général adjoint en charge des opérations de maintien de la paix de l'ONU. Jean-Pierre Lacroix a effectué une mission la semaine dernière à Kinshasa, Kalemi, Goma, Butembo et Beni. Interrogé successivement par Jean-Didier Ogobani à Kalemi et Martial Papimukeba à Beni, Jean-Pierre Lacroix nous parle des priorités de la MONUSCO jusqu'en 2024. Cette émission vous est coordonnée par Michel Kifindangoy sous la supervision de Alain Hiron. Merci de rester à l'écoute. Avant d'écouter notre invité, qui est Jean-Pierre Lacroix, son portrait avec vous, Jean-Didier Ogobani.
Portrait.
Jean-Pierre François Renaud Lacroix, secrétaire général adjoint aux opérations de paix, département des opérations des Nations Unies, est né le 2 mai 1960. Monsieur Lacroix est diplômé de l'École supérieure des sciences économiques et commerciales, de l'Institut des sciences politiques de Paris et de l'École nationale d'administration, promotion Michel de Montaigne. Le 14 février 2017, le secrétaire général des Nations Unies a nommé Jean-Pierre François Renaud Lacroix de la France au poste de secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix en remplacement de M. Hervé Latsou de la France. Directeur des Nations Unies, des organisations internationales, des droits de l'homme et de la francophonie au ministère des Affaires étrangères de la France, et ce depuis 2014, M. Lacroix arrive à ce poste avec 25 années d'expérience politique et diplomatique en qualité de ministre plénipotentiaire, notamment dans les domaines des organisations multilatérales et des activités et programmes des Nations Unies. Il était auparavant ambassadeur de France en Suède en 2011, chef du protocole de la France entre 2009 et 2010, représentant permanent adjoint de la France auprès des Nations Unies à New York entre 2006 et 2009, directeur adjoint de la division des Nations Unies et des organisations internationales au ministère des Affaires étrangères entre 2002 et 2006. Il était aussi deuxième conseiller et chef adjoint des missions à l'ambassade de France à Prague entre 1998 et 2002, premier secrétaire puis deuxième conseiller à l'ambassade de France à Washington entre 1995 et 1998. M. Lacroix fut conseiller au cabinet du Premier ministre entre 1993 et 1995 et premier secrétaire de la mission permanente de la France auprès des Nations Unies à New York entre 1990 et 1993.
Portrait.
Je vous convie à présent de suivre Jean-Pierre Lacroix, interrogé successivement par Jean-Didier Ogobani et Martial Papimukeba.
Monsieur le secrétaire général adjoint des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de conclure votre séjour dans le Tanganyika, où la mission de l'ONU va se retirer. Qu'est-ce que vous pouvez dire à la population qui pense que la MONUSCO a encore un rôle à jouer dans cette partie du pays?
Merci beaucoup. D'abord, je voudrais dire que la MONUSCO se retire d'une grande partie du territoire du Tanganyika, mais pas de tout le territoire, puisque j'ai eu l'occasion de redire que dans la partie nord, là où il y a encore un problème de groupes armés sensibles et sérieux, la MONUSCO maintiendra une présence, et notamment une présence militaire, et nous comptons travailler avec les FARDC pour apporter une réponse sécuritaire appropriée à cette menace de groupes armés dans le nord. Et dans le reste de la province, les Nations Unies ne partent pas. Les Nations Unies resteront, les agences, les fonds, les programmes. Et nous avons discuté ici à Kalemi, avec les autorités, aussi avec la société civile, sur les principales priorités sur lesquelles nous allons travailler ensemble. Et ces priorités, elles portent sur le renforcement des capacités de l'État, sur notamment en matière de justice, de police, soutien aux efforts de développement. J'ai mentionné que le PNUD ouvrirait prochainement un bureau ici, dans la province du Tanganyika, mais aussi soutien au désarmement, au DDRCS, soutien à l'implication des femmes dans les processus politiques, à la lutte contre les violences de genre. Nous avons des priorités qui se rejoignent pleinement avec les autorités locales, aussi avec la société civile. Et là où il faudra renforcer les capacités pour faire avancer ces priorités, et bien, tous les efforts seront faits pour le faire.
Renforcer les capacités, mais vous savez que la province est gangrénée par le conflit Toa-Bantou. Quel conseil pouvez-vous donner à ces communautés pour une solution pérenne?
Là, il y a d'abord la partie, si vous voulez, de formation des institutions de l'État. Je parlais de la police et de la justice, mais nous avons aussi beaucoup parlé des efforts de rapprochement des communautés et de dialogue. Les représentants de la société civile nous le disent elles-mêmes et aussi les autorités. Il y a des actions qui sont déjà engagées dans ce domaine. Il faut les poursuivre, il faut les intensifier. Ce sera aussi le rôle des Nations Unies à l'avenir de poursuivre dans ce sens. Et c'est pour ça qu'il y a, je crois, beaucoup d'intérêt à ce que les représentants des communautés au niveau local puissent vraiment être renforcés en tant qu'interlocuteurs pour qu'elles puissent avoir toute leur place dans ces efforts de manière à ce qu'il y ait vraiment une mobilisation totale des communautés pour résoudre ces problèmes de conflit qui sont effectivement encore très très présents.
Monsieur Lacroix, après le Tanganyika, vous vous rendez dans l'est de la RDC. Vous êtes sans ignorer que le Rwanda venait de faire une brève incursion le 18 octobre, relançant ici la question de soutien des pays voisins aux groupes armés. Que diriez-vous aux dirigeants de la région des Grands Lacs pour une cohabitation pacifique?
Eh bien, moi je suis persuadé qu'une des questions clés liées aux problématiques de sécurité dans l'est du Congo, c'est le renforcement des efforts au niveau régionaux. Le président de la République, d'ailleurs, a beaucoup fait d'efforts dans ce domaine, en intensifiant les contacts avec ses homologues de la région. Nous avons de notre côté, les Nations Unies ont un envoyé spécial pour la région des Grands Lacs avec lequel la MONUSCO et notamment Mme Keïta, la SRSJ, travaillent étroitement. Et ces efforts sont essentiels. C'est certain, il y a une problématique régionale, une problématique de mouvements transfrontaliers, d'armes, biens ou de produits, souvent malheureusement issus d'exploitation illégale des ressources naturelles. Il y a en réalité des intérêts mutuels très forts qui convient de valoriser et de mettre en lumière parce que cette région, elle se développera dans un esprit de coordination, de coopération mutuelle. C'est la voie de l'avenir, c'est, je pense, un des éléments clés de la solution. Et nous encourageons vraiment ces efforts de renforcement de la coopération régionale sur les questions de sécurité, de paix et aussi sur les questions de développement.
Vous venez de clôturer votre visite en République démocratique du Congo par l'étape de Beni après avoir été à Kinshasa, la capitale, Kalemie dans les Tanganyika, Goma et Butembo dans les Nord Kivu. Tout d'abord, pourquoi ces villes spécifiques en dehors de la capitale?
D'abord, il était, comme vous le sous-entendez, indispensable évidemment d'aller à Kinshasa et de rencontrer les plus hautes autorités, le président de la République, le gouvernement, et aussi la société civile et membres des partis politiques. Après, le choix de Kalemie, c'est un choix qui correspond à la situation particulière du Tanganyika. En ce qui concerne le Nord Kivu, là c'est différent parce que, évidemment, la situation de sécurité reste très préoccupante. Je note qu'à Beni, les membres de la société civile qui étaient venus hier très nombreux à une réunion nous ont tous dit que la situation dans la ville de Beni s'est améliorée. Je pense que c'est important de le dire parce que c'est un résultat positif et il faut dire, mais évidemment, il y a beaucoup à faire parce que dans le reste de la province et en particulier dans ce qu'on appelle le Grand Nord, il y a le défi des ADF qui demeure sur une bonne partie du territoire. Et là, deux choses. D'abord, la coopération avec les FARDC est de très bonne qualité. Et le soutien que nous apportons aux FARDC est reconnu. C'est un soutien dans tous les domaines, des soutiens logistiques, en fuel, en rations, en évacuation des soldats congolais blessés, donc évacuation médicale, en transport, et aussi en opération, avec par exemple un soutien par la participation des soldats de la MONUSCO aux opérations, un appui feu qui s'est récemment manifesté, etc., etc. Première chose. Deuxième chose, nous allons intensifier la planification en commun des opérations contre les groupes armés, notamment les ADF. Il y a un excellent état d'esprit des deux côtés. La brigade d'intervention rapide et le reste de la force ont changé, évoluent, davantage de moyens, une posture aussi robuste. Donc il y a beaucoup de défis, mais il y a aussi un effort qui est fait dans de très bonnes conditions de coopération. Dernier point, il ne faut pas négliger le fait qu'au-delà des aspects sécuritaires, il y a un travail très important qui doit être poursuivi, même intensifié, à la fois de communication très transparente sur nos forces, nos résultats, nos faiblesses et ce qu'on fait pour y remédier, que ce soit nous, les Nations Unies ou les partenaires congolais. Aussi parce que la population demande la justice. Il y a des dimensions régionales auxquelles il faut également accorder beaucoup d'attention. Donc toutes ces dimensions ne doivent pas être ignorées non plus.
Vous êtes à l'écoute de Radio Okapi, le secrétaire général adjoint en charge des opérations de maintien de la paix de l'ONU et l'invité de grande interview. Interrogé par Martial Papi Moukeba et Jean-Didier Ogobani, Jean-Pierre Lacroix nous parle de la situation dans l'Est.
Mais globalement, comment vous évaluez la situation sur les plans sécuritaires et des droits de l'homme au Nord Kivu et en Ituri en cette période de l'état de siège?
Ce qui se passe, bon, j'ai noté ce qu'on a entendu, encore une fois, des populations, c'est au sujet de la ville de Beni, donc un climat qui est bien meilleur dans la ville, mais ça ne doit pas occulter le fait que dans la zone du Nord Kivu et aussi maintenant en Ituri, il y a une situation qui reste très dégradée. Et aussi le fait que lorsque nous engageons des opérations contre les ADF, ceux-ci, qui sont très mobiles et qui procèdent par petits groupes, font des représailles en allant tuer parfois de nuit des civils. Et là-dessus, ce que je veux dire, c'est que nos efforts doivent porter sur plus de renseignements, plus d'informations. Et hier, nous avons parlé avec la population de ça. Et ils nous ont dit eux-mêmes, mais nous pouvons être vos partenaires dans ce domaine. Nous pouvons aussi vous aider à être mieux informés sur les allées et venues des groupes, parce que ce n'est pas juste une question de technologie. Donc avoir davantage d'informations, de qualité, mieux coordonner toute cette collecte de renseignements et être capable ensuite d'intervenir très vite pour répondre aux menaces. Il faut continuer. On a une attente légitime qui s'exprime de la part de la population. Et Monseigneur l'évêque de ce diocèse que nous avons rencontré à Butembo nous l'a dit clairement et il a tout à fait raison. Il est de notre devoir de faire le maximum pour poursuivre ses efforts.
Vous reconnaissez que la situation est restée dégradée. Exactement, ces dernières semaines, les ADF ont multiplié les attaques contre les civils dans les territoires de Beni et à Djougou. Comment aujourd'hui vous évaluez les partenariats FARDC MONUSCO dans la riposte contre ces groupes armés et comment avez-vous renforcé votre efficacité dans ces zones, pas seulement concernant les opérations militaires, mais aussi les actions civiles pour la protection de la population?
Sur la partie, je dirais, renforcement de notre coopération, d'abord, maintenant, il y a une coopération structurée à travers l'existence d'un état-major conjoint. Donc, les planifications et les opérations se font maintenant de manière systématiquement conjointe avec les FARDC. Ce n'était pas le cas auparavant. Donc, on a une bien meilleure transparence. Ça, c'est fondamental. Ensuite, comme je l'ai dit, notre outil est notamment la FIB, mais la FIB, ça n'est qu'une partie de la force. Toute la force est engagée, a été renforcée. Je souligne que du côté des FARDC, la question des réformes nécessaires est prioritaire. Je le dis d'autant plus que c'est une priorité qui est clairement exprimée au plus haut niveau de l'État. Je crois qu'il est important que ces efforts s'engagent de manière résolue parce que le défi, c'est non pas seulement de chasser les groupes et de les dégrader, mais aussi de faire en sorte qu'à la place des groupes, il y ait une présence stable des forces de sécurité et des forces armées congolaises, bien sûr avec notre soutien, parce que de cette présence dépend ensuite le retour de la justice, de la police et donc celui des services fondamentaux de l'État. Mais vous faites aussi allusion aux efforts civils de réconciliation des communautés. À Kinshasa, j'ai participé à une réunion avec les représentants de deux communautés, Nandé et Hutu, qui avaient sollicité la MONUSCO pour que nous les aidions dans les efforts qu'ils ont eux-mêmes initiés de réconciliation. Je trouve que c'est un modèle que nous voulons suivre et si possible répliquer. Alors évidemment, il faut au départ qu'il y ait une volonté lorsqu'il y a des tensions communautaires de la part des communautés. Et bien sûr, lorsque une opération se traduit par le déplacement des groupes armés, leur dégradation, très très vite il est important Encore une fois, j'ai parlé du retour de l'État, mais aussi du retour ou de la présence de notre capacité civile, de nos agences, de ceux qui peuvent apporter plus d'aide humanitaire et plus de soutien aux populations.
Une certaine opinion pense que la MONUSCO ne fait pas assez et qu'elle devrait apporter encore plus en termes d'appui logistique, renseignement et engagement des casques bleus sur le terrain dans la traque des ADF. Quelle est votre réaction ?
Bon, d'abord, je pense qu'il faut entendre ce que nous entendons nous-mêmes de la part des FARDC et de ses responsables ici. Le soutien au FARDC, il est très, très, très substantiel. Et nos camarades de la MONUSCO peuvent vous donner au public des détails et même des chiffres sur le soutien logistique, transport par avion des troupes, transport des blessés, ce qui est fait constamment, fourniture de rations dans les opérations, fourniture de fuel, de carburant. C'est vraiment massif, hein, et c'est aussi reconnu, hein, par nos partenaires des FARDC. Les FARDC ont encore un problème justement de soutien logistique, d'appui logistique, ce qui fait d'ailleurs qu'elles ont des difficultés à rester là où elles sont déployées, notamment après une opération. Maintenant, là où on peut le renforcer, c'est encore une fois au niveau de ce que nous avons maintenant mis en place, c'est-à-dire la préparation conjointe des opérations et donc une interopération, je ne dis pas interopérabilité parce que c'est un terme technique qui supposerait qu'on ait les mêmes doctrines, les mêmes équipements, et ce n'est pas le cas. Mais en tout cas, vraiment, les opérations planifiées de manière commune et ensuite conduites de manière la plus commune possible.
À votre avis, pourquoi il y a encore les sentiments anti-MONUSCO, surtout à Beni, Boutembo et Lubero, et comment les Nations Unies comptent rassurer la population de la région?
Il y a des attentes, elles sont évidentes, et tant que les défis de sécurité resteront ce qu'ils sont, il y aura de la frustration. Elle s'exprime, c'est normal. Même si, moi j'étais frappé hier d'entendre les très nombreux représentants de la société civile nous faire part aussi d'une appréciation quant à certaines améliorations, notamment au niveau de la ville de Beni, et nous dire qu'ils souhaitaient plus d'engagement et plus de progrès dans le même sens. Je pense que cette frustration, elle est normale, et elle doit nous inciter à faire encore davantage et à construire sur la bonne coopération qu'on a développée ces derniers temps. Maintenant, il y a aussi, et on s'en est expliqué hier, il y a aussi de la désinformation. Et ça, c'est inacceptable. Quand on dit que la MONUSCO a un agenda caché, qu'elle soutient tel ou tel groupe, d'abord, je le dis, c'est ridicule parce que nous avons un mandat. Le mandat, il est donné par 15 membres unanimes du Conseil de sécurité. Avec les États-Unis, la Chine, la Russie, le Royaume-Uni, le Kenya, l'Inde, la France, le Niger, tous ces pays qui font en ce moment partie du Conseil de sécurité. C'est eux qui nous donnent le mandat. Comment voulez-vous que ces pays, qui par ailleurs ont tellement de différences et de divisions entre eux, nous donnent une sorte d'agenda caché pour aller soutenir tel ou tel? Non. Le mandat que nous avons, qui est très clair, c'est de soutenir les Congolais dans leurs efforts pour retrouver la paix et la stabilité. Je pense que quand il y a de telles fake news qui sont diffusées, il y a des intérêts derrière, parce qu'il ne faut pas le cacher. Il y a aussi des intérêts qui ne souhaitent pas forcément le retour de la paix et de la stabilité. Et je pense notamment à tous ceux qui profitent des circuits économiques illégaux, de l'exploitation illégale de certaines ressources. Je crois qu'il faut dire les choses clairement et ne pas se voiler la face dans ce domaine. Mais notre responsabilité à nous, c'est justement en présence aussi de cette désinformation, de ces fake news, c'est de communiquer de la manière la plus intense et de la plus transparente possible et faire en sorte qu'il y ait la meilleure compréhension possible de ce que nous sommes, de ce que nous faisons, de la manière dont on travaille avec les FARDC, de ce que font les FARDC, de leurs problèmes, des efforts qu'ils font pour y répondre.
La sécurité, c'est d'abord l'affaire de l'armée et le gouvernement, bien entendu, mais l'armée gangrénée par les problèmes des manques de salaires et récemment les accusations sur la corruption. Vous êtes chargé des opérations. Quels conseils donneriez-vous à l'armée pour être plus efficace et mettre fin à l'insécurité au Congo ?
La réforme de l'armée, la réforme du secteur de sécurité ici, je pense, c'est absolument prioritaire. D'ailleurs, nous en avons parlé avec les autorités à Kinshasa. Je crois que c'est quelque chose qui est bien sur la liste et en position très élevée des priorités du président et du gouvernement. Mais il est clair que c'est une des conditions fondamentales pour que nous puissions réussir ensemble.
Vous venez de nous rejoindre en cours d'émission sur Radio Okapi. Le secrétaire général adjoint en charge des opérations de maintien de la paix de l'ONU, Jean-Pierre Lacroix, nous parle de la situation politique en RDC et du mandat de la MONUSCO. Il répond aux questions de Jean-Didier Ogobani et Martial Papimukeba.
La prochaine résolution du Conseil de sécurité est attendue en décembre, si vous devriez voir dans votre boule de cristal. Sans pour autant que vous ne soyez magicien, que souhaiteriez-vous que le Conseil de sécurité donne comme mandat à la MONUSCO pour la rendre plus efficace que les années antérieures?
D'abord, je vois que jusqu'à présent, les membres du Conseil de sécurité soutiennent fortement la MONUSCO, soutiennent cette opération, cette mission de manière très unie. Et l'unité du Conseil de sécurité, qui n'est pas toujours acquise dans toutes les situations, est extrêmement précieuse. Je pense que la qualité du travail qui est fait par nos collègues de la MONUSCO ici en RDC contribue fortement, c'est même un élément essentiel, à ce soutien très fort, très consensuel, très unanime du Conseil de sécurité. Je ne suis pas effectivement ni devin ni magicien, je ne sais pas à quoi ressemblera la résolution, mais il me semble que cet état d'esprit positif du Conseil de sécurité vis-à-vis de la MONUSCO est toujours là, et je pense que en expliquant comme nous le ferons et comme nous l'avons déjà fait dans le passé très clairement ce que fait la mission, comment elle approche la transition dans certaines zones, comment elle approche le renforcement de son action sécuritaire, mais pas seulement sécuritaire, dans les provinces de l'Est les plus touchées par la violence. Je pense qu'avec toutes ces explications, j'ai bon espoir que le Conseil renouvellera son soutien et renouvellera le renouvellera dans cet esprit de consensus qui a jusqu'à présent prévalu.
Vous étiez à Kinshasa où vous avez rencontré les acteurs sociaux et politiques, les forces vives, les autorités du pays et même le président de la République. Vous venez au Tanganyika et vous allez dans l'est de la RDC pour vous enquérir de la situation sécuritaire au moment où la MONUSCO a présenté les 18 jalons pour son retrait définitif à l'horizon 2024. Pensez-vous que ces 18 jalons pourront être la clé de voûte pour trouver une solution définitive d'ici à 2024?
Bon, ce sont des objectifs, ce sont des critères importants. Je crois qu'il est très utile d'avoir une approche commune. Une approche commune avec les autorités, avec nos États membres, Conseil de sécurité, sur ce qui doit être fait, sur les objectifs prioritaires à rechercher afin que soient créées progressivement les conditions pour que, au fond, la République démocratique du Congo puisse ne plus avoir besoin d'une présence de la MONUSCO, sans pour autant que les Nations Unies partent, comme je l'ai déjà indiqué en ce qui concerne le Tanganyika. Dans le Nord, là où il y a des problèmes, parce que nous d'une manière générale, je veux vraiment insister, il ne peut pas y avoir de calendrier préétabli où on dit... à telle et telle échéance, on part quelles que soient les conditions. C'est pas possible. Et donc ici, ce qui a été fait, c'est de regarder, d'ailleurs avec les autorités, avec les parties prenantes, quelle est la situation maintenant. Je dis pas qu'il n'y a pas encore des défis de sécurité dans le reste de la province, mais notre analyse, c'est que ce sont des défis de sécurité un peu différents, qui sont plus de nature, je dirais, criminelle ou semi-criminelle. Ça appelle une réponse qui soit plus de nature police-justice, renforcement des capacités de l'État dans la matière. Et d'ailleurs, la présence qui se poursuivra des Nations Unies prévoira justement un appui fort aux autorités dans ce domaine. Mais au nord, il y a encore un problème donc différent, plus aigu, de violence de groupes armés. C'est la raison pour laquelle une présence militaire sera maintenue justement dans le nord. Et pour le reste du pays, parce que je voudrais aussi profiter de cet entretien pour faire une clarification, nous avons produit, travaillé ensemble avec le gouvernement, à ce qu'on appelle un plan de transition. Transition responsable, graduelle, de la MONUSCO vers un départ progressif. Et je veux vraiment clarifier qu'il ne s'agit pas du tout de dire dans 3, 4 ans ou 5 ans, quoi qu'il arrive, la MONUSCO partira. Ce n'est pas du tout notre esprit. J'ajoute que nous avons des États membres qui nous donnent notre mandat et qui nous donnent nos finances. Et aucun d'entre eux, ça je peux en témoigner, parce que la SRJ, Bintou Keïta et moi-même, nous avons souvent briefé et discuté avec les membres du Conseil de sécurité qui donnent le mandat de la MONUSCO. Aucun d'entre eux ne dit autre chose que c'est sain d'avoir une stratégie de départ, parce qu'il faut savoir quels sont les objectifs communs avec le gouvernement pour que les conditions deviennent propices à un retrait graduel. Mais ce n'est pas du tout productif, et ce serait même contre-productif de dire, quoi qu'il arrive, en RDC, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, la MONUSCO partira. Ce n'est pas du tout l'état d'esprit. Je veux le préciser aussi parce que quand on a parlé à Kinshasa du plan de transition, certains protagonistes, certains membres de la société civile ou des forces politiques nous disaient, vous avez discuté et négocié un plan de départ avec le gouvernement, et j'ai dit non, c'est pas ça.
Actuellement, la situation politique est dominée par l'installation des membres de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, sur fond de contestation. La MOUCA et les FCC ne veulent pas de cette commission électorale. Et dans ce contexte politique difficile qui pourrait déboucher aux contestations des élections, comment la transition de la MONUSCO devrait s'adapter à cette situation politique pour éviter d'autres cycles de violence après son départ?
Oui, alors au niveau du processus électoral, ce qui est bien sûr un sujet dont nous avons parlé à Kinshasa, avec les autorités, avec les forces politiques, avec la société civile, nous sommes prêts à soutenir évidemment un processus électoral pour qu'il soit le mieux organisé possible, le plus fiable possible, pour que tous les protagonistes et la population soient rassurés sur la nature et la transparence de ce processus. Et nous avons pris note de certains nombres de tensions et de controverses. Et notre intention, c'est dans le plein respect de la souveraineté, évidemment, de la RDC, c'est d'encourager tout ce qui peut être fait pour que ce processus soit effectivement transparent, de qualité, menant à des élections qui soient pleinement, reconnues comme libres, équitables. Donc voilà le sens de notre action s'agissant du processus électoral. Et bien sûr, s'il y a des demandes spécifiques d'appui des Nations Unies, de la MONUSCO, nous sommes prêts à les examiner.
Monsieur Jean-Pierre Lacroix, merci.
Merci beaucoup.
Les Nations Unies vont-elles apporter les appuis aux élections prévues en 2023 en République démocratique du Congo?
Bien, nous l'avons fait dans plusieurs pays, nous l'avons fait dans le passé ici, nous sommes prêts à le faire. Je note que le président de la République a récemment exprimé l'intention d'avoir un engagement de la communauté internationale s'agissant de l'observation du processus. Alors, quelles seront les demandes à l'égard des Nations Unies? Je crois qu'il est encore trop tôt pour le dire, mais nous avons indiqué aux autorités de l'État qu'il y avait à la fois cette disponibilité du côté des Nations Unies, mais que nous ne nous engagerions que dans la mesure où il y aurait des demandes. Et donc maintenant, nous allons poursuivre des consultations pour voir s'il y a effectivement des attentes, des demandes spécifiques de soutien, auquel cas nous les regarderions avec ouverture, évidemment, nous verrions ce que nous sommes en mesure de faire. Mais notre objectif, bien sûr, c'est que le processus électoral se déroule dans les meilleures conditions possibles, avec le moins de tensions possibles, pour aboutir à des élections qui soient les plus libres, les plus équitables possibles. C'est ça notre objectif, et nous sommes prêts à nous engager en ce sens.
Il y aura des exigences des Nations Unies afin d'apporter tout appui?
Il y a un objectif que je vous ai indiqué. Notre objectif, c'est d'aider à un processus qui soit transparent, consensuel, qui soit organisé de telle sorte que les tensions inévitables lors d'un processus électoral soient, contrôlées, qu'elles ne débouchent pas sur des fractures, et qu'à la fin des fins, il y ait un processus, une élection, une consultation qui permette à la population congolaise de s'exprimer librement et que son choix soit reflété à l'issue de ce scrutin. Et je voudrais ajouter qu'un des éléments importants dans ce domaine, c'est l'engagement plein et entier des femmes. Et s'il y a un engagement de la part des Nations Unies, je suis certain que nous souhaiterons en particulier promouvoir l'engagement total des femmes dans ce processus, des femmes en tant qu'électrices, mais aussi des femmes en tant que candidates, en tant qu'acteurs et actrices politiques.
Jean-Pierre Lacroix, merci.
Merci beaucoup.
Fin des grandes interviews sur Radio Okapi. Cette émission vous a été produite avec le concours de Jean-Didier Ogobani et Martial Papi-Mukeba. Michel Kifindangoy vous l'a coordonné sous la supervision de Alain Irung. Merci de rester fidèle à la fréquence de la paix. Rendez-vous pour un nouveau numéro samedi prochain à 10h05. Au revoir.